d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Le passage à l'âge adulte, c'est un défi pour les jeunes migrants. En Espagne, aujourd'hui, le pays s'occupe de près de 125 000 mineurs venus de l'étranger sans leur famille. C'est une obligation légale pour les autorités. Mais une fois l'âge de la majorité atteint, ces jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes. C'est un reportage de Laetitia Dive.
En route vers la bordure de Jerez, Michel raconte que son association Voluntarios de Jerez por Otro Mundo accueille depuis 5 ans des migrants tout juste majeurs venus sans leur famille en Europe et qui se retrouvent mis à la porte des centres pour mineurs une fois leurs 18 ans passés. En Andalousie, où des bateaux chargés de migrants accostent régulièrement, les mineurs venus d'Afrique se font de plus en plus nombreux et la région a dû s'adapter pour les recevoir.
Ici, dans la province de Cadiz, il y a actuellement 6 centres pour mineurs qui hébergent entre 60 et 70 jeunes par centre.
Mais ce sont autant de jeunes qui peuvent se retrouver à la rue une fois l'âge de la majorité atteint. L'État espagnol ne prévoit rien pour leur venir en aide. Ce sont donc les associations, comme celle de Michel, qui prennent le relais. À Jerez, son association possède 4 appartements où vivent une petite quarantaine de jeunes. 2 de ces logements se trouvent à la bordure de la ville, face à une grande étendue verte jonchée de déchets, où 2 chevaux se promènent paisiblement. Au premier étage, 6 garçons se partagent 3 chambres, un séjour et une cuisine. Ils se présentent un à un, puis Michel prend la parole pour les inciter à raconter leurs histoires.
Le gouvernement est sur les dents, et l'Europe aussi, parce que beaucoup de jeunes Marocains, mais aussi des subsahariens, arrivent en Europe. Mais le problème, c'est qu'ils parlent de vous sans vous donner la parole. C'est donc primordial qu'on vous entende, vous. Ça peut faire réfléchir ceux qui pensent que vous venez ici juste vivre une aventure ou profiter du système.
Parmi les garçons se trouve Anas, un Marocain de 20 ans, qui est de loin le plus loquace. Le sourire scotché aux lèvres, il explique comment et pourquoi il est arrivé en Espagne.
Je passais les examens pour devenir policier au Maroc, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout car j'ai subi une opération au ventre. J'ai donc pensé à partir. J'ai travaillé comme secouriste et photographe et quand j'ai reçu ma paix, j'ai décidé de venir ici.
Contrairement à ses colocataires, il était majeur lorsqu'il a atteint l'Europe, mais il a été enregistré comme mineur par les autorités et a vécu dans un centre pendant plusieurs mois.
Quand je suis arrivé au centre, j'ai parlé à la directrice pour lui dire que j'étais majeur. Elle m'a dit, puisque tu as ton bac et que tu as étudié à l'université, tu peux rester ici pour t'occuper des jeunes et moi je vais parler de ton cas à des associations pour adultes. C'est elle qui a pris contact avec Michel pour que je puisse venir vivre ici.
Ces confusions autour de l'âge des migrants sont monnaie courante et créent de nombreux imbroglios administratifs. Michel Bustillo.
Quand les jeunes arrivent en Espagne, on leur fait une fiche MENA. C'est une fiche de police qui n'a aucune valeur juridique, car la date de naissance est aléatoire. Cela dépend de ce que raconte l'adolescent ou de leurs estimations. Et ici, il y a une pratique courante, inscrire 1er janvier 2001 comme date de naissance. Donc le 2 janvier 2019, on m'a appelé depuis 5 provinces d'Andalousie parce qu'il y avait 40 jeunes qui avaient fêté leurs 18 ans la veille. J'ai trouvé ça très bizarre.
Les jeunes aussi connaissent bien la loi et ont parfois intérêt à mentir sur leur âge selon les circonstances. Mamadou est originaire de Guinée-Conakry et après avoir sauté la barrière pour rentrer à Ceuta, il a dû changer de version à plusieurs reprises.
On a rentré à Ceuta, c'était le 17 février 2017. On a rentré aux barrières. Quand j'ai rentré à Ceuta, on m'a demandé si je suis mineur. Je lui ai dit non, je ne suis pas un mineur parce que je ne voulais pas rester à Ceuta. C'est eux qui m'ont payé des billets. Ferry, c'est eux qui m'ont traversé la mer. J'arrivais ici, on m'a demandé si je suis mineur. On a parti faire le preuve géométrique des os là. Ça sortait mineur. J'ai resté au centre mineur plus de 9 mois.
Tous les mineurs non accompagnés doivent en effet être hébergés dans des centres spécialisés, avoir des papiers qui justifient de leur statut de mineur non accompagné ou encore être scolarisés jusqu'à l'âge de 16 ans, comme n'importe quel jeune espagnol. Mais cet été, les arrivées par les côtes ont été tellement massives que les centres d'accueil andalous se sont retrouvés débordés, obligeant les autorités à investir des campings ou des gymnases. Depuis, l'État a débloqué 40 millions d'euros pour faire face à ce problème et l'Andalousie a hérité de près de 70% de la somme. Plusieurs résidences ont été ouvertes pour accueillir ces jeunes dans la région. La routine y est à peu près la même partout, selon Ilias. Un Marocain arrive à l'âge de 17 ans et passé par 2 centres.
Il te réveille le matin, puis il y a le petit déjeuner, la toilette. Ensuite, tu assistes à un cours d'espagnol, un atelier où tu joues au football.
Comme ses colocataires, le jeune homme est arrivé à l'association une fois majeur. Il se sait chanceux et estime que cette nouvelle vie lui permet de mieux s'intégrer à la société espagnole grâce à une plus grande autonomie.
Dans le centre, tu dois rester à l'intérieur si tu es mineur. Ici, on fait nous-mêmes la cuisine, on se réveille seul. Moi, par exemple, je travaille et il n'y a personne pour me réveiller le matin. Je cuisine, je fais le ménage, les courses.
Dans l'appartement, 5 des 6 locataires sont marocains, une proportion qui reflète ce qui se passe à grande échelle. Parmi les mineurs non accompagnés qui vivent actuellement en Espagne, environ 80% sont d'origine marocaine. Tout à fait logique pour Youssef, qui fait partie de l'association marocaine pour l'intégration des migrants.
Les dégénérats, il n'y a rien à faire au Maroc, alors il n'y a pas de futur, il n'y a pas ta-ta-ta-ta-ta, etc. Alors, quand ils arrivent ici, ils sont déçus, parce que quand ils arrivent ici... Je trouve dans la rue, ce mineur-là, la première chose qu'il sent, c'est la déception. Même avec tout ça, quand tu lui dis « pourquoi tu ne retournes pas ?» La majorité ne veulent pas.
Ceux qui ne sont plus en âge de vivre dans des centres et ne trouvent pas d'association, comme celle de Michel Bustillo, se retrouvent en effet sans domicile. Une situation qui inquiète l'État espagnol, d'autant plus que ces jeunes sont de plus en plus nombreux à sombrer dans la drogue. Pour tenter de limiter ce problème, Madrid pourrait imposer des quotas par région afin que l'Andalousie ne subisse pas seule le poids de ses arrivées. En parallèle, l'Espagne négocie avec Rabat pour décider du sort de ces jeunes. Certains pourraient à terme être rapatriés vers le Maroc.
La Méditerranée reste la grande route des migrations vers l'Europe, une route toujours dangereuse. Il y a eu plus de 2260 morts en mer enregistrés l'an dernier, plus de 200 déjà depuis le début de cette année. En Italie, un livre raconte le travail d'une équipe de médecins légistes et d'anthropologues de l'Université de Milan pour redonner un nom, une histoire à ces morts de la Méditerranée. Naufragi senza volti, c'est le titre original, on pourrait le traduire par naufragé sans visage. Ces chercheurs travaille depuis 5 ans sans financement public pour trouver l'identité de chaque victime. C'est presque une provocation dans l'Italie de Matteo Salvini, Franceline Beretti.
Cristina Cataneo est médecin légiste. Son métier, c'est de trouver les causes d'une mort suspecte ou d'identifier un corps. Mais depuis quelques années, sa routine a changé. Elle et son équipe travaillent en ce moment sur le naufrage du 18 avril 2015. Environ 1000 victimes, surtout de jeunes hommes d'Afrique subsaharienne, 20 000 ossements récupérés et des milliers d'objets.
Ça, c'est une rose en tissu avec un bracelet et un billet de banque de 1 dollar américain. Là, on a une brosse à dents avec un dentifrice et avec... Ça, je crois que c'est musulman, un rosaire musulman. Ces choses devraient être connues, sues, vues pour pouvoir vraiment réaliser la réalité. C'est très facile d'être raciste ou fermé si tu n'as pas la possibilité de voir, de toucher avec les mains ce qu'ils emmènent dans leur poche.
Quand une personne est scientifiquement identifiée, le laboratoire peut délivrer à la famille un acte de décès. C'est fondamental.
Pour des questions d'héritage, pour des questions administratives en tout genre, on a besoin de certificats de décès. Pas seulement nous, tout le monde. Ça ne dépend pas de la couleur de la peau. Ça semble absurde de devoir le dire. Parfois j'ai honte car je dis encore des choses comme « Tu vois, ça montre qu'ils sont comme nous ». Et d'un côté, c'est vraiment paradoxal. Mais il y a un besoin de le dire, de le souligner, que nous sommes tous humains, surtout en ce moment. Et je crois que ces objets aident beaucoup à le souligner.
Dans son livre, Cristina Cataneo salue le dévouement de la marine militaire, des pompiers, des universités, des centaines de personnes qui refusent d'oublier ces morts au fond de l'eau. Dans une Italie ouvertement hostile aux migrants, c'est un livre politique, même si elle se méfie de l'étiquette.
Inévitablement, ça se rapproche un peu de la politique, mais je crois que c'est un thème qui va au-delà de la période que nous sommes en train de vivre. Ça parle de droits de l'homme. Ça raconte aussi une Italie que beaucoup diraient disparue aujourd'hui. Moi, je crois qu'elle existe encore, parce que c'est un état d'esprit italien ce qui s'est passé. Ce moment magique pendant lequel toutes ces institutions ont collaboré pour faire une chose que personne d'autre n'a fait. Redonner une dignité à ces corps, chercher à leur donner une identité. Je suis convaincue qu'en Italie, il y a un fonds récupérable.
Une partie de l'Italie peut être touchée par le sort des migrants, doit être touchée. C'est aussi ce que croit Pauline Colonna d'Istria. Elle a suivi le projet avec la maison d'édition.
Il est clairement politique, ce livre, dans son sens le plus fort. C'est pas politique au sens où on nous dirait quoi faire au milieu de cette crise migratoire, mais c'est politique parce que ça nous confronte à une question qui n'intéresse personne, très sincèrement. On a beau répéter partout que la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert, je crois que personne se demande vraiment quel cimetière c'est. Publier des livres qui ont un impact, qui peuvent jouer un rôle pas seulement au niveau éditorial, mais au niveau politique et qui peuvent faire bouger les choses, je crois que non, c'était pas un risque, c'était au contraire l'occasion pour une maison d'édition de renouer avec un de ses rôles fondamentaux.
Ce témoignage ne dénonce pas seulement la classe politique et son oubli des morts venus de l'autre côté de la Méditerranée. Il s'étonne de l'indifférence de l'ensemble de la société, y compris de la communauté scientifique.
Extrait. Quand un avion s'écrase, qu'un train déraille ou qu'un tsunami s'abat sur une île, on assiste littéralement à un déferlement de spécialistes venus offrir leurs services et participer aux activités médico-légales. Je me souviens du tsunami de Phuket. J'avais à peine été insérée dans la mailing list des organisations qui géraient ce type de situation que j'étais inondée d'échanges entre des centaines d'experts qui se proposaient de venir prêter main forte. C'est pour cela justement que j'étais si choquée de voir que dans le cas des tragédies de ces bateaux débordants de migrants venus d'Afrique et du Moyen-Orient, personne dans la communauté scientifique n'a daigné lever le petit doigt.
Dans le combat quotidien contre le gouvernement italien, ce livre fait son chemin. Il est en tête des essais vendus depuis plusieurs semaines.
Et on part en Turquie avant les élections municipales de dimanche. Pour la toute première fois, un Afro-Turc se présente à une élection dans le pays. Mesut Merjan, dont les ancêtres étaient originaires du Soudan, est en lice pour le fauteuil de maire dans la ville égéenne de Selçuk, à Anadolu.
Certains médias locaux le surnomment déjà l'Obama de Selçuk, les millions de dollars en moins. Mesut Merjan fait campagne avec peu de moyens, il n'a même pas de permanence, et parie sur le porte-à-porte et le bouche-à-oreille pour convaincre les électeurs. À 47 ans, il porte les couleurs du Parti démocrate pour briguer la mairie de Selçuk, district de la grande province égéenne d'Izmir. Homme d'affaires après avoir été mannequin et footballeur dans sa jeunesse, Mesut Merjan affirme qu'en cas de victoire, il développera sa ville grâce à ses liens avec l'Afrique. Au début de la campagne, il a d'ailleurs rendu visite aux consuls et ambassadeurs africains en Turquie. Sur les réseaux sociaux, Mesut Merjan aime se décrire comme un loup noir, référence à sa couleur de peau bien sûr. Mesut Merjan est afro-turc, membre d'une communauté dont l'histoire en Turquie remonte à plusieurs siècles. Mais référence aussi à ses opinions politiques. Le loup est le symbole des Turcs les plus nationalistes, ceux qu'on appelle les loups gris, les ulkucu, c'est-à-dire les idéalistes. C'est dans ces termes que Mesut Merjan se décrit. Depuis l'enfance, l'homme est immergé dans la politique. L'un de ses oncles a fait partie des fondateurs du MHP, le Parti d'Action Nationaliste. Mesut Merjan lui-même a longtemps navigué dans les instances de cette formation, avant de la quitter lors d'une scission ces dernières années. C'est la première fois en Turquie qu'un Afro-Turc est candidat à un fauteuil municipal. Pourtant, cette communauté dénombre officiellement quelques 5000 membres, et sans doute beaucoup plus si l'on inclut les Turcs qui ignorent qu'un de leurs ancêtres est originaire d'Afrique. À l'époque ottomane, notamment au XIXe siècle, ils étaient des milliers dans les plantations de l'Égée, travaillant souvent comme esclaves. Les racines en Turquie de la famille Merjan sont beaucoup plus anciennes. Selon l'homme politique, elles remonteraient à la conquête de Constantinople par Mehmet II en 1453. Mesut Merjan raconte qu'un de ses ancêtres, Abdullah, a combattu à cette époque aux côtés du sultan. Abdullah appartenait à l'ethnie d'Inka du Soudan. Ses descendants n'ont jamais quitté la Turquie et Mesut Merjan vit d'ailleurs dans la région d'Izmir avec sa femme et ses deux enfants. En bon politicien, le candidat annonce qu'il est sûr de gagner. Ce serait un exploit. Le Parti démocrate n'avait pas dépassé 0,2% aux dernières municipales.
En Grèce, une exposition contre les violences dont sont victimes les migrants. De la bande dessinée pour raconter les attaques racistes dans Athènes et une carte noire de la capitale qui permet désormais de les situer dans la ville, Charlotte Stievenard.
Collé sur un mur ou sur un poteau de la capitale grecque, le visiteur trouvera des étiquettes oranges portant un code QR. Une fois scanné avec son portable, une image illustrée de l'agression qui a eu lieu sur place apparaît sur l'écran avec des explications en grec et en anglais. Les dessins sont violents, avec des passages à tabac d'hommes et de femmes, du sang et des morts, violents tout comme l'ont été les 50 attaques racistes répertoriées sur cette carte noire de la ville que l'on peut retrouver sur le site internet valtousx.ge. guerre, Valtos Hi, comme l'expression grecque effacelée au sens d'efface les étrangers de la carte. Tu viens d'où? C'est la question que posent les agresseurs avant de passer à l'attaque. On la retrouve sur plusieurs des illustrations réalisées par 25 dessinateurs. Tu viens d'où? Comme pour s'assurer qu'ils s'en prennent bien à un étranger, un migrant, un réfugié. Autre point commun, dans de nombreux cas, ces agresseurs sont membres ou sympathisants de l'Aube Dorée, le parti néo-nazi grec qui possède toujours 16 sièges au Parlement. Electre Alexandropoulou, de la Fondation Rose à Luxembourg, explique qu'ils ont lancé le projet avec l'organisation non gouvernementale Human Rights 360. Il s'agit, dit-elle, de montrer aux gens qu'ils se trouvent à côté quand ça se passe, que c'est à côté de leur maison, de leur square, de l'école où vont leurs enfants. L'idée pour elle, c'est que les gens se positionnent par rapport à ça. Le moment pour la mise en ligne de cette exposition virtuelle n'a pas été choisi au hasard non plus, rappelle Eleni Takou de Human Rights 360. Il permet de rappeler au public, mais aussi aux médias, que le procès fleuve de l'Aube Dorée entre dans sa dernière phase cette année. Le parti néo-nazi y est accusé d'être une organisation criminelle. En 4 ans, il a été très peu couvert par la presse locale, mais aussi internationale.
Et des nouvelles de notre saga Brexit. Les députés britanniques ont pris la main hier au Parlement face à une Theresa May exsangue, mais qui s'accroche. Pendant ce temps, devant le Parlement à Westminster, la mobilisation continue. D'un côté, les Brexiteurs qui veulent à tout prix quitter l'Union européenne. De l'autre, ceux qui veulent rester. Comme Steve Bray, depuis 20 mois, il dédie sa vie à cette cause. Béatrice Leveillé l'a rencontré à Londres.
Steve Bray porte un chapeau et en guise de cape, un drapeau européen sur ses épaules. Armé d'un énorme mégaphone, il ressemble à un super-héros de bande dessinée, prêt à sauver le Royaume-Uni du désastre.
Le référendum a été truqué. Beaucoup de ceux qui ont voté pour le Brexit vivent dans des zones défavorisées. Et ce sont eux qui vont payer le prix fort. Donc on doit faire ça pour tout le monde, peu importe pourquoi ils ont voté. On veut stopper le Brexit.
Steve consacre sa vie depuis 20 mois à combattre le Brexit. Il a bientôt 50 ans et vient de Port Talbot, une petite ville du Pays de Galles.
Je suis un numismate. J'étais auto-entrepreneur, je vendais des pièces de monnaie. J'ai une fille et un petit-fils et je pense que leur offrir un avenir est plus important que l'argent que j'aurais pu gagner. Depuis 20 mois, dès que le Parlement siège, je suis là. Pour me soutenir, les gens viennent de toute la Grande-Bretagne. Parfois, nous sommes 10, parfois 400. Ça dépend de ce qui se passe au Parlement. Les gens apprécient qu'il y ait une manifestation permanente ici. Ils viennent de partout, même de l'Union européenne. Tout le monde est bienvenu.
Everybody is welcome. Les trottoirs de l'avenue qui longe le Parlement sont occupés et animés par les pros et les anti-Brexit pour la plus grande joie des touristes. Steve Bray a de nombreux soutiens. Il a formé avec une dizaine de militants le mouvement européen de désobéissance, le SODEM. Dès 6h du matin, ils installent un maximum de banderoles pour ne pas laisser de place à leurs adversaires pro-Brexit qui ne cachent pas leur agacement.
Steve Bray, il gagne 80 livres par jour. Il se paye avec des cagnottes. Gens-là. Nous venons d'une autre planète.
Steve Bray finance sa petite organisation avec des cagnottes sur Internet ou en vendant du matériel. Les fonds lui servent à se loger, Londres est une des villes les plus chères d'Europe, et à fabriquer des banderoles et des pancartes. L'argent sert aussi à fabriquer des badges et des drapeaux vendus au soutien du mouvement. Monsieur Stop Brexit, comme l'appellent les Britanniques, a bien l'intention de poursuivre sa propre manifestation jusqu'à ce que les Britanniques en aient fini avec le Brexit.
Monsieur Stop Brexit, Steve Bray, un portrait signé Béatrice Leveillé.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur notre site internet rfi.fr, dans les podcasts Accent d'Europe et bien sûr sur les réseaux sociaux et ici, demain, à la même heure.